Merci beaucoup Bruno Faure. Et tout de suite, c'est le rendez-vous des Amériques et d'Haïti avec vous, Edmond Sadaka. Bonjour Edmond.
Bonjour Adrien, bonjour à tous. À la une, tout d'abord, cette table ronde qui vient d'être organisée à Paris, à l'initiative notamment du collectif Haïti France. Au centre des débats, l'actuelle situation politique et sociale et les difficultés auxquelles est confronté le pays 5 ans après le séisme. Nous écouterons le reportage de Tommy Cataneo. La revue de la presse des Amériques, ce sera dans un instant en votre compagnie, Arim Lipold. Bonjour Arim.
Bonjour Edmond, bonjour à tous.
À la une, la colère du président vénézuélien après la publication d'un article mettant gravement en cause le président de l'Assemblée nationale. Nous irons à Mexico retrouver notre correspondant Patrick John Buff. Il nous dira pourquoi les investisseurs chinois ont bien du mal décidément à pénétrer le marché mexicain. Et puis notre rendez-vous quotidien avec le journal d'Outre-mer Première et Benoît Ferrand, ce sera dans une quinzaine de minutes.
Revue de presse des Amériques.
Arim Lipold, c'est donc la colère du président du Venezuela qui est à la une aujourd'hui.
Oui, beaucoup de journaux latino-américains en parlent. Nicolas Maduro a vivement réagi à un article du journal espagnol ABC qui accuse le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne d'être impliqué dans un trafic de drogue. Une enquête de la justice américaine est en cours, selon ABC. Le quotidien s'appuie sur le témoignage de l'ancien garde du corps de Diosdado Cabello, qui fut également garde du corps de l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez. Nicolas Maduro, son successeur, dénonce un complot monstrueux et vulgaire contre le président de l'Assemblée nationale, un complot orchestré, selon lui, depuis Miami, c'est-à-dire dans El Nacional. Dans les colonnes du journal, le président vénézuélien réitère sa confiance en Diosdado Cabello. Il est attaqué parce qu'il est loyal à la révolution bolivarienne, explique Nicolas Maduro, des propos repris également dans le journal brésilien Ouestadam. Pour le site d'information Infolatam, il n'est pas étonnant que Maduro défende avec vigueur son rival Diosdado Cabello. Les deux hommes forment le duo dirigeant du Venezuela. Ils payent le prix fort de leurs erreurs politiques et n'ont pas d'autre choix que d'afficher publiquement leur soutien mutuel s'ils veulent se vivre politiquement. Les États-Unis, pour l'instant, refusent de confirmer l'existence d'une enquête contre Diosdado Cabello, mais selon le sous-secrétaire d'État adjoint William Brownfield, les informations divulguées par ABC sont, je cite, « cohérentes ».
Suite de votre revue de presse, Arim, à la une également la visite de Barack Obama hier, mardi, en Arabie Saoudite.
Oui, le président a fait escale à Riyad pour présenter ses condoléances après la mort d'Abdallah et du roi Abdallah, bien sûr, et pour parler avec son successeur, le roi Salman. Mais ce que la presse américaine retient avant tout, Edmond, eh bien, c'est que l'épouse de Barack Obama est apparue cheveux au vent, non voilée, donc contrairement aux exigences de la loi saoudienne. Du coup, certains côtés quotidiens y vendent de leurs spéculations. Peut-être était-ce un acte politique, commente le Washington Post, qui rappelle toutefois que Barack Obama ne voulait justement pas faire de politique lors de cette visite. Une façon de dire qu'il n'allait pas évoquer le cas du blogueur Raed Badawi. Et le Washington Post de conclure, Edmond, le problème c'est que la simple décision de porter ou non le voile dans un pays comme l'Arabie Saoudite peut être justement considérée comme un acte politique.
Autre sujet, Arim Lipold, les États-Unis qui qualifient de signe positif la réaction de Fidel Castro au rapprochement entre les deux pays.
Hier, l'ancien président cubain s'est pour la première fois prononcé sur la normalisation des relations entre Washington et La Havane. Dans une lettre publiée, entre autres, en une de Granma, il déclare « Je n'ai pas confiance dans la politique des États-Unis et je n'ai changé aucun mot avec eux. Mais cela ne signifie à aucun moment qu'un rejet d'une solution pacifique au conflit. » Alors des propos qui, selon le Miami Herald, approuvent implicitement le changement dans les relations entre les deux pays. Il fallait que ce texte soit publié sous la manchette de Granma, analyse un expert américain. Cela donne une caution à ce qui s'est passé entre Cuba et les États-Unis. Et le politologue de continuer, Fidel Castro a perdu beaucoup d'influence sur le gouvernement, mais ses mots ont un poids symbolique car il reste une autorité dans le pays en tant que père de la révolution.
Enfin, Enfin, Washington, aujourd'hui, une audience retient l'attention des médias. Le Sénat va interroger la candidate désignée pour succéder au ministre de la Justice, Eric Holder.
Oui, Loretta Lynch attend la confirmation du Sénat et si c'est le cas, elle deviendrait la première femme afro-américaine à occuper ce poste, écrit USA Today. L'audience doit durer 2 jours et d'après Politico, il y a de fortes chances que le républicain du Sénat accepte la désignation de Loretta Lynch, mais l'audience promet toutefois d'être rude. La procureure doit faire face à des questions sur l'immigration et la guerre contre le terrorisme. Ce qui se jouera en toile de fond, explique Politico, c'est bien sûr la bataille entre le Congrès dominé par les Républicains et la Maison-Blanche.
Merci, c'était Harim Lipold, la revue de la presse des Amériques. Il est 14h15 à Paris. À Port-au-Prince, l'actuelle situation politique et sociale d'Haïti et les difficultés auxquelles est confronté le pays 5 ans après le séisme, tout cela était au centre d'une table ronde organisée à Paris il y a quelques jours, le 19 janvier pour être précis, organisée par le collectif Haïti France et le CCFD Terre Solidaire. Table ronde organisée autour d'un ouvrage, le livre Haïti par lui-même, la reconquête de l'indépendance volée. Ce fut l'occasion pour les intervenants d'expliciter cette notion d'indépendance volée, mais surtout de proposer des pistes pour que le pays puisse s'en affranchir. Écoutez ce reportage de Tommy Cataneo.
5 ans après le séisme, certaines organisations prennent le contre-pied de leurs consoeurs. Au CCFD Terre Solidaire, pas d'expatriés sur l'île et encore moins de bureaux à Port-au-Prince. On mise avant tout sur les organisations paysannes pour développer des stratégies à échelle locale, comme l'explique la chargée de mission Floriane Louvet.
Les paysans, nous avec lesquels nous on travaille, les mouvements paysans, c'est ça qu'ils essaient de faire, c'est-à-dire de mettre en place des initiatives de concertation territoriale pour que sur un territoire donné, ils soient capables de mettre en place des initiatives qui permettent à des populations, à des communautés villageoises de s'en sortir, d'améliorer leurs revenus en créant des coopératives. Donc c'est permettre finalement aux Haïtiens d'être acteurs au niveau local.
Autre acteur sur le terrain, l'Institut de technologie et d'animation ITK. Il aide aussi les organisations paysannes à améliorer les conditions de vie de leurs membres. Meisnel Portilus, coordinateur de l'organisation haïtienne, regrette que le secteur rural ne soit pas plus soutenu par les autorités. Pour lui, le problème vient du statut de la capitale Port-au-Prince, centre névralgique des institutions et des actions humanitaires.
Dans le séisme, tout était concentré pratiquement à Port-au-Prince. Donc dès que Port-au-Prince a été touché, c'est tout le pays concrètement qui a été paralysé. Si vous allez à Port-au-Prince aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plus de gens à Port-au-Prince aujourd'hui qu'il y en avait avant le séisme. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? C'est parce qu'on n'a pas pris en compte les véritables besoins du milieu rural en quelque sorte. Et ITK, à travers sa stratégie de créer des bureaux régionaux pour être plus près des paysans, essaie de pousser l'État à adopter des politiques qui puissent permettre une certaine décentralisation sans laquelle le pays ne pourra pas se développer. Mais aujourd'hui, ça ne bouge pas trop.
Une inertie politique qui n'étonne pas Christophe Warny. Pour cet ancien conseiller d'Aristide et spécialiste d'Haïti, l'avenir politique du pays n'aura de salut que dans le dialogue entre les organisations locales et les élites dirigeantes.
La société haïtienne est une société qui fonctionne presque comme la société esclavagiste d'il y a 2 siècles. Mais si on veut réellement envisager un développement du pays, il faut absolument discuter avec tout le monde et surtout avec ceux qui, à la base, mènent un certain nombre de luttes, font des propositions, mais la paresse intellectuelle, c'est tellement plus facile de discuter avec des Haïtiens qui ont fait Sciences Po ou l'Université de Montréal que discuter avec des leaders syndicalistes paysans ou des femmes qui essaient de prendre en charge la gestion de l'eau. Ça, c'est difficile, et pourtant la clé est là, c'est ces acteurs-là qui peuvent demain jouer un rôle et changer le pays.
Les organisations paysannes commencent d'ailleurs à se regrouper pour faire entendre leurs revendications, mais sans pour autant créer leur propre parti, afin d'éviter de grossir la liste déjà longue des partis politiques haïtiens.
La chronique des Amériques.
Les investisseurs chinois ont décidément bien du mal à pénétrer le marché mexicain. Nouvelle preuve, dernière preuve en date, d'ailleurs la suspension de la construction d'un immense complexe commercial. Le Dragon Mart devait s'implanter à Cancun, mais ce projet sino-mexicain a été déclaré contraire à la législation sur la protection de l'environnement. Patrick John Buff, vous êtes notre correspondant à Mexico. Alors dites-nous d'abord, Patrick, ce qu'il y a derrière cet immense projet que cherchent à implanter les Chinois.
Bon, le but des investisseurs était d'ouvrir un grand centre d'exposition, disons de distribution des produits chinois, avec l'avantage de pouvoir facilement inonder les marchés mexicains et centra-américains. Pour ce faire, les Chinois n'ont pas lésiné sur les moyens, coût estimé du projet 160 millions d'euros. Ce centre devait s'étendre sur plus de 200 hectares, il était prévu d'y construire 700 logements et une vingtaine de hangars offrant 3000 locaux commerciaux. Ça aurait été également un point de chute idéal pour les entreprises chinoises désireuses de s'installer dans la région ou de venir y faire du commerce.
Mais pourquoi donc ce projet a-t-il été suspendu et apparemment suspendu de manière définitive ?
Parce qu'il a violé un certain nombre de normes environnementales. La compagnie Dragon Mart n'a pas présenté d'études d'impact. Elle a déboisé plus de 150 hectares, détruisant ainsi de grandes superficies de mangroves. Et c'est pourquoi les autorités lui ont infligé l'an passé une amende de plus d'un million d'euros qu'elle n'a toujours pas payée. Il faut dire aussi que les autorités fédérales, qui traînaient les pieds, ont finalement décidé d'intervenir sous la pression non seulement des organisations écologistes, mais aussi des chefs d'entreprise mexicains qui considèrent que cette présence chinoise pourrait constituer une concurrence déloyale.
Les Chinois n'ont décidément pas de chance au Mexique, car ce n'est pas la première fois, Patrick, qu'ils essuient un échec.
Effectivement, en novembre dernier, le président Peña Nieto a annulé un contrat pour la construction du train à grande vitesse entre les villes de Mexico et Querétaro. Un contrat de 3,5 milliards d'euros qui avait justement remporté un consortium chinois, le China Railway Construction. Le président Peña Nieto avait pris cette décision pour éviter qu'on lui reproche un manque de transparence dans le processus d'adjudication où était impliquée une entreprise mexicaine proche du gouvernement. Mais bon, les Chinois sont des gens obstinés, ils ont donc décidé de répondre au nouvel appel d'offres du gouvernement mexicain, toujours avec l'espoir de remporter ce juteux marché. Quant aux responsables de Dragon Mart à Cancun, ils prétendent que si leur projet a été suspendu, ce n'est pas de manière définitive, car il ne peut pas être annulé tant que des procédures légales sont en cours.
Merci, c'était Patrick John Buff, notre correspondant à Mexico.
Journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Edmond.
À la une de votre journal, les nouvelles règles du jeu en matière électorale qui font grincer quelques dents en Guadeloupe.
Oui, la réforme des modes de scrutin locaux, adoptée en avril 2013, a instauré, rappelons-le, l'élection dans chaque canton d'un binôme homme-femme, ce qui a impliqué un redécoupage des cantons dont le nombre a été divisé par deux. Conséquence, en Guadeloupe, comme ailleurs, il va falloir faire de la place et les places deviennent très chères, d'où des tiraillements et des mécontentements. Ce qui était inévitable, selon Max Mathiasin, premier secrétaire de la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste. Il est au micro de Franck Aristide.
Là où nous avions 40 cantons, il n'y en a plus que 21. Ensuite, vous avez la parité. Ce sont les socialistes qui l'ont voulu. Parité homme-femme, 21 femmes, 21 hommes. Donc, le nombre de cantons est réduit.
Mais on retrouve quasiment le même nombre de conseillers.
Nombre de conseillers, mais là, il y a des conseillers qui forcément, ou des candidats sortants, qui vont rester à terre, comme on dit, parce que il faut revoir la donne et la parité sera totale. Donc, la moitié des hommes ne seront pas réélus. Par conséquent, je comprends très bien qu'il y ait des mécontentements, des dissensions, des insatisfactions. Faction ça et là, mais au final, comme tous les autres partis, de tous les autres partis politiques, les choses devront, à l'approche de la date de dépôt de candidature, les choses devront entrer en place. On parle beaucoup de nous parce que c'est nous qui serons présents dans le plus grand nombre de cantons, avec peut-être le plus de candidats sérieux.
Direction maintenant la Martinique où c'est un autre changement, la création d'une autorité unique des transports qui cause quelques inquiétudes aux taxicos, les taxis collectifs traditionnels qui craignent d'être les laissés pour compte du nouveau système. Une inquiétude que dit comprendre d'ailleurs le vice-président du Conseil général de la Martinique en charge des transports. Il s'appelle Johnny Ajar, il est au micro de Fabrice de Frémont.
Cela représente officiellement environ 300 entreprises. Tous les 300 entreprises, il y en a quasiment une centaine qui ont quasiment l'âge de la retraite. Il y a également 20% qui ont moins de 50 ans. Et donc, il y a un travail de fond à mettre en place que le Conseil général poursuit. C'est un nouveau dispositif qui va se mettre en place. D'ailleurs, il y a une étude qui a été lancée depuis le mois de septembre, qui est en train de se poursuivre. Et une fois que les résultats seront là, nous pourrons ensuite en discuter justement avec les syndicats pour avoir une concertation et aboutir concrètement sur ce volet social. L'objectif étant de faire cette transition du risque au péril vers un vrai service public de transport avec une compensation financière pour ceux qui vont rester. Et donc, qui dit service public, dit à la fois modernisation du réseau, des réseaux, donc multimodal, donc maritime, bus à haut niveau de service, et on va dire taxico, mais également, qui dit service public, dit sécurité, dit modernité, mais dit aussi prix attractif.
Vaste programme. Toujours en Martinique, sachez que le trafic est resté stable à l'aéroport Aimé Césaire, l'aéroport de Fort-de-France, en 2014. 1 684 879 personnes ont transité par l'île des Antilles. Ce sont les liaisons vers l'Amérique du Sud qui enregistrent les plus fortes progressions. Bon après-midi, à demain.
Merci, bon après-midi Benoît Ferrand et à demain.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.
Dans 4 minutes, le prochain flash d'informations que vous présentera Bruno Faure. En attendant, eh bien, place à la musique. Comme tous les jours, le disque du jour, c'est celui d'une véritable icône du reggae mondial, l'incontournable jamaïcain U-Roy, 71 ans au compteur. Il vient à la rencontre du public français aux côtés d'un autre poids lourd du genre Big Youth. Le tandem vient de donner le coup d'envoi de sa tournée française. Il est ce soir pas très loin de Paris, à Sannois, très exactement. Il va y interpréter, entre autres, le dernier album de U-Roy, Pray Feed the People, est à découvrir avec ce titre. Écoutez.
We have to pray for the people them round the world. Pray for the one them will pick me up, young man. We have to pick up the one them down in Europe, over the whole Africa. Pray for the one them in Japan and China. Pray for the one them in Canada. We have to pray for the one them in America. We have to pray for the one them in West Africa. Pray for the one them in the South and East. Pray for the one them down the North Coast. Pray for the children around the world. Too much nuclear weapon. Yeah, me want to know how Babylon really dey on its star. Too much war and destruction from Jordan. Yeah. We have to pray for the people in Jamaica. Pray for the one them in Canada. Pray for the one them in the East and West and North and South Africa. As I will tell you, pray for the sick, or pray for the lame, and pray for the lame and lazy, pray for the feeble. And as we pray for the one them were evil, like an evil carnival. Tell you, hey, hey. Too much war and destruction, yeah. I'm on really and truly want to know how Babylon really dead on the youth. Chill. Hey, hey. We have to pray for the people in Africa. Pray for the one them in America. Pray for the one them in Europe and China. Japan and South Africa. We have to pray for the one them in Jamaica. Pray for the blind and pray for the deaf and the dumb. Pray for the sick, the lame and the lazy. Pray for the one them that drive me crazy. Pray for the people right around the world. But I'll pray for the little boys and humble little girls. Pray for the blind, pray for the sick. Wow. To make them walking quick, yeah. Pray for the people in the Africa. Pray for the one them in the Ivory Coast.
Voilà, on se quitte sur ces notes de reggae jamaïcain. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Laurent Philippot était aujourd'hui à la réalisation et à la technique. Passez une excellente journée à l'écoute de RFI.
jour, en direct de Paris, RFI vous informe grâce à ses 400 correspondants à travers le monde.
Barcelone,
Pékin,
Amman,
Bamako,
Québec,
Bangui,
Athènes,
Le Caire,
Bangkok,
Kinshasa.
RFI, les voix du monde.
Serge Daniel, vous êtes en ligne de la capitale malienne.
Nathalie Versu en ligne en direct de Berlin.
Il y a Julie Vandal, vous êtes notre correspondante au Nigeria. On sait
tout. Merci Reza Nour Mahmoud en ligne de La Paz, le correspondant de RFI en Bolivie.
RFI. 7 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Eau, assainissement, quel défi pour les villes du Sud demain et quel nouveau métier?
Vendredi.
La parole est à ceux qui veulent entreprendre en Afrique avec les conseils du coach Didier Akwete.
Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, Emmanuel Bastide.
Du lundi au vendredi, à partir de 10h10 TU.
RFI.